invité en même temps que moi pour que je fusse contente. Deux ou trois de mes amis préférés, notre intimité ne semblait faire aucun progrès réel. Attablé dans l'ombre ou dans l'ombre étendue commodément, pourvu de chair rare et de boissons, de tabac turc en cigarette, de blond tabac chinois dans des pipettes d'argent, nous demeurions un peu roides et inquiets, comme si la jeune hôtesse et nous-mêmes appréhendions le retour inopiné d'un maître absent et inconnu. Ce maître, de qui personne ne prononçait le nom de femme, nous avions vaguement l'air d'attendre qu'une catastrophe le projetât au milieu de nous ou qu'un exorcisme le dissipât. Mais il ne faisait que dépêcher à René des messagers invisibles et chargés, porteurs de lacs, de jade, d'émaux, d'étoffes. Une collection de monnaies d'or anciennes de Perse, vin, brilla, disparut, laissant la place à des vitrines de papillons et d'insectes exotiques qui reculèrent à leur tour devant un Bouddha colossal, un jardin d'arbustes à feuilles de cristal, à fruits de pierres précieuses. D'une merveille à l'autre, René allait, incertaine, d'être détaché et témoignant d'une modestie indifférente de gardienne. Si je me reporte au changement qui peu à peu me rendit René plus intelligible, je crois que quelques gestes, quelques mots d'abord, me l'éclairèrent d'une lumière différente. Il y a des êtres qui se transforment par enrichissement, d'autres n'acquièrent une vie réelle qu'en se dépouillant, et leur misère seule les crée. Quand commençais-je de pouvoir oublier que René Vivienne était poète, c'est-à-dire de lui témoigner un intérêt véritable? Sans doute un soir de dîner chez elle, soir de chair épicée et de breuvage inquiétant, mais je ne me fiais qu'à une coupe ou deux de champagne brute, parfait. Soir gai et pourtant inexplicablement guindé, soir où la gaieté de René fut attentive à rire, empressée à fêter, hors de toute mesure, le moindre mot plaisant. Elle était par exception habillée d'une robe blanche qui découvrait son jeune cou penché, sa nuque d'où pleuvait toujours décoiffer ses doux cheveux plats, qu'elle n'ondulait jamais. Entre deux répliques, sans qu'aucun trouble lui présageait, elle laissa aller contre le dossier de son siège son buste fin et creux, et sa tête pendit, les yeux clos, sur sa poitrine. Je revois les deux longues mains qui reposèrent, ouverte et morte sur la nappe. Une sorte de syncope dura moins de 10 secondes et René reprit vie sans embarras. Je vous demande pardon, mes petits enfants, je crois que je dormais. Et elle s'élança dans le débat qu'elle avait quitté pour la mort passagère d'où elle revenait, munie d'étranges forces et d'une irritation égarée. Ce s'écria-t-elle, « je ne veux plus qu'on me parle ici de ces vers. Il n'a aucun talent. Ce bi, c'est... Attendez, je sais ce que c'est. C'est un con à plumes. Voilà, un con à plumes. C'est un con à plumes. » Le mot tombait, gros, bref, dans notre silence. Tous, nous eussions été capables de proférer le même mot de bouche à oreille entre haut et bas. Mais sur les traits enfantins de René, en même temps qu'elle répétait le gros mot, régnait une éclipse qui les privait de signification, d'âge, et révélait un profond désordre. Le dément précautionneux se perd s'il laisse une seule fois l'œil satin, par une seule et étroite brèche, surprendre et profaner son univers cadenassé. Après, c'est l'œil sain qui change, s'émeut, s'éprend du mystère qu'il a entrevu et ne cesse de l'interroger. Plus l'insane est fin, moins il résiste à cette sollicitation de l'être normal. Je sentis que la modulation de René, en moi-même je comparais René à une douce mélodie un peu plate en dépit de ses harmonies laborieuses, que la modulation de René approchait. Chez le costumier Pasco, 10 jours avant le bal costumé que donna Robert Dumière au Théâtre des Arts qu'il dirigeait, René Vivienne, en se rhabillant après l'essayage de son costume, elle voulait figurer Jane Grey sur le bio, tel qu'hélas Paul de la Roche l'a peinte, endossa par erreur en place de son manteau noir, mon manteau noir. « Il vous va presque bien, lui dis-je en riant, mais il vous manque encore quelque chose pour le porter dignement, quelque chose là. » est là. À part ça, il me va presque bien, répéta René, presque bien. Je lui revis un visage obscurci, la bouche entrouverte et stupide. Elle balbutia. C'est un grand malheur que vous m'annoncez là. Elle mesurait d'un regard morne l'agréable ponette, genre cop, que j'étais dans ce temps-là. Elle se ressaisit assez rapidement et nous nous séparâmes. Le soir, on me remit de sa part ce mot adressé à mes amis, figurant du tableau vivant de Jane Grey et à moi. Mes enfants, il m'arrive le plus grand malheur qui pouvait m'atteindre. J'ai engraissé par inadvertance de 10 livres. Mais j'ai encore 10 jours avant notre bal pour les perdre. C'est suffisant. Il faut que ce soit suffisant, car je ne dois à aucun prix dépasser le poids de 52 kilos. Ne me cherchez pas, je vais dans un endroit inconnu de vous. Comptez sur moi, je serai là dans 10 jours, et sous les armes, pour le bal. Votre René. Elle tint parole. Nous sûmes plus tard qu'elle avait passé 10 jours au pavillon Henri IV à Saint-Germain. Le matin, elle buvait un verre de thé et marchait dans la forêt jusqu'à ce que ses forces l'abandonnassent. Alors, elle buvait encore du thé corsé d'alcool, se couchait presque évanouie et recommençait le lendemain avec la force inépuisée des extravagants. Nous faisions peut-être 20 kilomètres, avoua plus tard sa compagne. Je ne sais pas comment mademoiselle tenait debout. Moi, qui mangeais, je n'en pouvais plus. Les 10 jours écoulés, Renée nous rejoignit à 11 heures au Théâtre des Arts. Elle était très jolie dans son costume, fardée, l'orbite creuse, les cheveux libres sur une épaule et gaie, avec égarement. Elle eut encore la force de figurer Jane Grey, les mains liées, la nuque blanche, versant sur le bio un flot de cheveux blancs, blonds, avant de tomber sur la scène, derrière la toile de fond, en proie aux plus tristes et aux plus violentes manifestations d'un empoisonnement d'alcool, aggravé par l'inanition et quelques dopings. Avec en fond sonore le premier mouvement du premier trio en sol de Claude Debussy, un contemporain de Colette et que Colette a vu jouer et qu'elle connaissait. Je vous lisais un extrait de Le pur et l'impur de Colette, un livre qu'elle considérait elle-même comme un de ses meilleurs ouvrages et qui est paru au début des années 30. Antoine, qui revient à pied du quartier Rochechouart, se sent morne pour 2 raisons. D'abord, parce qu'il dégèle et que du pavé gras fume une vapeur à goût de torchon mouillé. Ensuite, parce que son chef, agacé, l'a traité de luthier pour momie. En proie à des pensées navrantes, Antoine est rentré sans tumulte. N'a pas chanté dans l'antichambre, n'a pas fait choir les parapluies suspendus au pater de l'entrée. Il pousse la porte du salon avant que rien n'y ait annoncé et s'arrête surpris. Mine est là, endormie sur le canapé blanc à bouquet. Endormie ? Pourquoi endormie ? Elle a posé son chapeau sur la table, jeté ses gants dans une jardinière et son manchon roulé à ses pieds semble un chat accroupi dans l'ombre. Endormie ? Cela ressemble si peu à Mine, ce désordre insolite, ce sommeil de vaincu. Il s'approche davantage, elle dort, la tête appuyée au dossier sec et le pur métal de ses cheveux a coulé un peu sur son épaule. Il se penche, le cœur battant, ému d'être là, vaguement pénétré de crainte et de honte, comme s'il ouvrait une lettre volée. Cet enfant qu'il adore, comme elle sommeille tristement. Les sourcils se plissent, la bouche détendue s'abaisse au coin et les narines délicates, dilatées, respirent tout à coup plus fort. Ce navré visage aveugle va-t-il fondre en larmes ? Qu'a-t-elle de changé ? Songe Antoine avec angoisse. Ce n'est plus la même mine. D'où vient-elle, si fatiguée, si triste ? Son sommeil est désolé et je ne l'ai jamais senti si loin de moi. Est-ce qu'elle va recommencer à mentir ? C'est un mensonge déjà que cet assoupissement harassé, cet autre visage qu'elle ne lui montre jamais. Il recule d'un pas, mine à remuer, ses mains tressaillent faiblement comme les pattes des chiens qui courent en rêve, et elle s'assit en sursaut, effarée. « C'est vous ? Quoi donc, c'est vous ?» Antoine la regarde profondément. « C'est moi, mine, je rentre à l'instant, tu dormais. Pourquoi me dis-tu « vous » ?» Mine, si pâle, s'empourpre jusqu'aux cheveux et aspire l'air un grand coup. « Ah, c'est toi ! Quel mauvais rêve !» Antoine s'assit près d'elle, encore étreint de doute et de malaise. « Raconte ton mauvais rêve !» Elle sourit de son féminin et audacieux sourire en secouant sa mèche blonde défaite. « Merci pour me faire peur !»« Je te rassurerai, ma mine, » dit Antoine en la prenant dans son grand bras. Mais elle rit et s'échappe frissonnante et danse pour se réchauffer, pour s'éveiller, pour oublier la menaçante image qui faisait dans son rêve un corps d'adolescent nu et blond étendu sans vie sur un tapis rouge. Aujourd'hui, c'est dimanche, un jour qui détraque la semaine, différent des autres jours. Le dimanche, Antoine, qui croit aimer la musique depuis qu'il reconstitue des barbitos, emmène Mine au concert. Mine ne saurait pas dire vraiment pourquoi elle est plus frileuse le dimanche. Elle arrive au concert, claquant des dents, et la musique ne la réchauffe guère, parce qu'elle écoute trop. Elle l'écoute, penchée, les mains jointes dans son manchon, attentive à regarder le chef d'orchestre, comme si le geste de Chevillard ou de Colonne allait enfin lever le rideau d'un spectacle mystérieux qu'on devine derrière la musique et qu'on ne voit jamais. « Mon Dieu, soupire Mine, pourquoi rien n'est-il jamais parfait ? On attend, c'est comme une envie de pleurer qu'on a par tout le corps et rien n'arrive. » Pour ce gris dimanche de dégel, Mine se pare d'une robe grise, en velours couleur d'argent terni et d'une étole de renard noir. Sous le chapeau couronné de plumes sombres, ses cheveux rayonnent, emboîtant la nuque d'un casque serré en or poli. Debout dans le cabinet de toilette, multiplié par la glace d'un miroir bro, Mine s'avoue satisfaite. Je réalise assez bien l'idée qu'on se fait de la femme du monde. Puis elle s'en va taquiner son mari, car sa propre perfection la rend volontiers autoritaire. Il s'habille dans une petite pièce installée à la diable à côté de son bureau fumoir. Mine ne tolère pas auprès d'elle des affaires d'hommes, qui sont noires, rudes à toucher, ni de dessous masculins. Si au moins, dit-elle, on pouvait mettre des rubans aux caleçons et aux gilets de flanelle pour que ça fasse joli quand on ouvre une armoire. Antoine est en train de s'habiller, formé par le collège, à une célérité silencieuse. « Allons, Antoine, allons !» gronde la petite fée en argent. Il tourne vers elle une figure barbue et préoccupée, les yeux noirs et blancs de bon rastaquer. « Tiens, mine, mets-moi le bouton de ma manchette gauche. Je ne peux pas, j'ai mes gants. Tu pourras en ôter un. » Il n'insiste pas davantage, mais la même préoccupation revient peser sur ses sourcils. Mine s'admire dans le miroir, incliné, d'une vieille psyché déléguée, reléguée dans ce coin et qu'elle ne consulte jamais. Il a toujours quelque chose de nouveau à apprendre dans une glace inconnue. Une chanson, soudain, de sa voix de petite fille, aiguë et pure. « J'ai du dit, j'ai du bon, j'ai du déné d'inogué, j'ai du zon, 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 j'ai du tradéridora. J'ai du vert et jaune, j'ai du violet, j'ai du bleu tendu, j'ai de l'orangé. » Voilà, avec en fond sonore un extrait du trio pour clavier, violon et violoncelle de Jules Bouquet, né en 1914, c'était l'Allegro. Je vous ai lu un extrait de l'ingénue libertine de Colette. Nous rentrons poudrés, moi, la petite bulle et la bergère flamande. Il a neigé dans les plis de nos robes, j'ai des épaulettes blanches, un sucre impalpable fond au creux du mufle camard de poussette, et la bergère flamande scintille toute de son museau pointu à sa queue en massue. Nous étions sortis pour contempler la neige, la vraie neige et le vrai froid. Rareté parisienne, occasion presque introuvable de fin d'année. Dans mon quartier désert, nous avons couru comme trois folles, et les fortifications hospitalières, les fortifs décriés ont vu, de l'avenue des Ternes au boulevard Malherbe, notre joie haletante de chiens lâchés. Du haut du talus, nous nous sommes penchés sur le fossé que comblait un crépuscule violâtre, fouetté de tourbillons blancs, nous avons contemplé le Valois noir, piqué de feux roses, derrière un voile chenillé de mille et mille mouches blanches, vivantes, froides comme des fleurs effeuillées, fondantes sur les lèvres, sur les yeux, retenues un moment aux cils, au duvet des joues. Nous avons gratté de nos dix pattes une neige intacte, friable, qui fouillait sous nos pieds avec un crissement caressant de taffetas. Loin de tous les yeux, nous avons galopé, aboyé, happé la neige au vol, goûté sa suavité de sorbet vanillé et poussiéreux. Assises maintenant devant la grille ardente, nous nous taisons toutes trois. Le souvenir de la nuit, de la neige, du vent déchaîné derrière la porte fond dans nos veines lentement et nous allons glisser à ce soudain sommeil qui récompense les marches longues. La bergère flamande qui fume comme un bain de pied a retrouvé sa dignité de louve apprivoisée, son sérieux faux et courtois. D'une oreille, elle écoute le chuchotement de la neige au long des volets clos. De l'autre, elle guette le tintement des cuillères dans l'office. Son nez effilé palpite, ses yeux couleur de cuivre, ouverts droit sur le feu, bougent incessamment, de droite à gauche, de gauche à droite, comme si elle lisait. J'étudie un peu défiante cette nouvelle venue, cette chienne féminine et compliquée qui garde bien, rit rarement, se conduit en personne de sens et reçoit les ordres, les réprimande sans me dire avec un regard impénétrable et plein d'arrière-pensée. Elle sait mentir, voler, mais elle crie, surprise comme une jeune fille effarouchée et elle se trouve presque mal d'émotion. Où prit-elle cette petite louve au rein bas, cette fille des champs wallons? Sa haine des gens mal mis et sa réserve aristocratique. Je lui offre sa place à mon feu et dans ma vie, et peut-être m'aimera-t-elle, elle qui sait déjà me défendre. Ma petite bulle au cœur enfantin dort, foudroyée de sommeil, la fièvre au museau et aux pattes. La chatte grise n'ignore pas qu'il neige, et depuis le déjeuner, je n'ai pas vu le bout de son nez, enfoui dans le poil de son ventre. Encore une fois, me voici en face de mon feu, de ma solitude, en face de moi-même. Une année de plus. À quoi bon les compter? Ce jour de l'an parisien ne me rappelle rien des 1er janvier de ma jeunesse. Et qui pourrait me rendre la solennité puérile des jours de l'an d'autrefois? La forme des années a changé pour moi, durant que, moi, je changeais. L'année n'est plus cette route ondulée, ce ruban déroulé qui, depuis janvier, montait vers le printemps, montait vers l'été pour s'y épanouir en calme pleine, en prés brûlant coupé d'ombre bleue, taché de géranium éblouissant, puis descendait vers un automne odorant, brumeux, fleurant le marécage, le fruit mûr et le gibier, puis s'enfonçait vers un hiver sec, sonore, miroitant d'étangs gelés, de neige rose sous le soleil, puis le ruban ondulé dévalait, vertigineux jusqu'à se rompre net devant une date merveilleuse, isolée, suspendue entre les deux années comme une fleur de givre, le jour de l'an. Une enfant très aimée entre des parents pas riches et qui vivait à la campagne parmi des arbres et des livres et qui n'a connu ni souhaité les jouets coûteux, voilà ce que je revois en me penchant ce soir sur mon passé. Une enfant superstitieusement attachée aux fêtes des saisons, aux dates marquées par un cadeau, une fleur, un traditionnel gâteau. Une enfant qui d'instinct ennoblissait de paganisme les fêtes chrétiennes, amoureuse seulement du rameau de buis, de l'œuf rouge de Pâques, des roses effeuillées à la fête de Dieu et des reposoirs, syringa, aconie, camomille, du surgeon de noisetier, sommet d'une petite croix, béni à la messe de l'Ascension et planté sur la lisière du champ qui l'abrite de la grêle. Une fille était prise du gâteau à cinq cornes, cuit et mangé le jour des rameaux, de la crêpe en carnaval, de l'odeur étouffante de l'église pendant le mois de Marie. Vieux curé sans malice qui me donna la communion, vous pensiez que cette enfant silencieuse, les yeux ouverts sur l'autel, attendait le miracle, le mouvement insaisissable de l'écharpe bleue qui saignait la Vierge, n'est-ce pas? C'était si sage. J'étais si sage. Il est bien vrai que je rêvais miracle, mais pas les mêmes que vous. Engourdi par l'encens des fleurs chaudes, enchanté du parfum mortuaire, de la pourriture musquée des roses, j'habitais, cher homme sans malice, un paradis que vous n'imaginiez point, peuplé de mes dieux, de mes animaux parlants, de mes nymphes et de mes chèvres-pieds. Et je vous écoutais parler de votre enfer en songeant à l'orgueil de l'homme qui, pour ses crimes d'un moment, inventa la géhenne éternelle. Ah, qu'il y a longtemps. Ma solitude, cette neige de décembre, ce seuil d'une autre année ne me rendront pas le frisson d'autrefois, alors que dans la nuit longue, je guettais le frémissement lointain, mêlé au battement de mon cœur, du tambour municipal, donnant au petit matin du 1er janvier l'aubade au village endormi. Ce tambour, dans la nuit glacée, vers 6 heures, je le redoutais, je l'appelais du fond de mon lit d'enfant avec une angoisse nerveuse, proche des pleurs, les mâchoires serrées, le ventre contracté. Ce tambour seul, et non les 12 coups de minuit, sonnait pour moi l'ouverture éclatante de la nouvelle année. L'avènement mystérieux après quoi haletait le monde entier, suspendu au premier rang du vieux tapin de mon village. Il passait, invisible dans le matin fermé, jetant au mur son alerte et funèbre petite aubade, et derrière lui, une vie recommençait, neuve et bondissante, vers 12 mois nouveaux. Délivré, je sautais de mon lit à la chandelle, je courais vers les souhaits, les baisers, les bonbons, les livres à tranches d'or. J'ouvrais la porte au boulanger portant les 100 livres de pain, et jusqu'à midi, grave, pénétré d'une importance commerciale, je tendais à tous les pauvres, les vrais et les faux, le chanteau de pain et le décime qu'ils recevaient sans humilité et sans gratitude. Matin d'hiver, lampe rouge dans la nuit, air immobile et âpre d'avant le lever du jour, jardin deviné dans l'aube obscure, rapetissé, étouffé de neige, sapin accablé qui laissiez d'heure en heure glisser en avalanche le fardeau de vos bras noirs. Coup d'éventail des passereaux effarés et leurs jeux inquiets,
dans une poudre de cristal plus ténue, plus pailletée que la brume irisée d'un jet d'eau. Oh, tous les hivers de mon enfance, une journée d'hiver vient de vous rendre à moi. C'est mon visage d'autrefois que je cherche dans ce miroir ovale, saisi d'une main distraite, et non mon visage de femme jeune, que sa jeunesse va bientôt quitter. Avec en fond sonore la suite pour clavecin numéro 5 de Dieu part, interprétée par Huguette Grimy-Chauliac. Je vous lisais un extrait très enneigé de L'Évry de la vigne de Colette.